que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est normal?
Je veux pas avoir d'enfants.
C'est
normal.
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si simple que c'est normal.
Chut.
Eh ben, viens, on s'assoit et on papote.
Hello, j'espère que vous allez bien, vous écoutez On Papote, le podcast qui est là pour donner la parole aux jeunes adultes. Comme d'habitude, c'est moi, Anaëlle, votre animatrice depuis 4 saisons maintenant, et je vous rappelle que le podcast est aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, @onpapote.podcast. Aujourd'hui, on déterre un vieux format qu'on n'a pas vu depuis maintenant un an, vous l'avez vu dans le titre, c'est le grand retour de la mini-série Le Banc des Créateurs. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les deux premiers épisodes, voilà un peu le topo. Je rencontre un ou une jeune qui décide de casser les codes et de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'occasion aussi de montrer ce que la jeunesse est capable de proposer en dehors du salariat et aussi de donner évidemment la force à ceux qui débutent. Donc il y a déjà deux épisodes qui sont déjà disponibles. J'ai rencontré Maude avec sa micro-entreprise d'audiobiographie, Lisette Audiobiographie, et Félix qui lui s'était lancé sur les réseaux sociaux. Et je suis très contente aujourd'hui de lancer ce troisième épisode avec Amélie du studio Hey Amel Studio. Coucou Amel, comment est-ce que tu vas?
Salut. Eh bien écoute, je suis très contente d'être ici sur ton podcast.
Bah, je suis très contente de t'accueillir. Moi cette fois-ci, je vois que t'es un peu timide. Ça va aller, je pense.
Un peu. Je pense que c'est le stress parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais vous allez voir, je risque de beaucoup me détendre vers la fin.
Pour ceux qui ne savent pas, donc là, je pense qu'on va avoir peut-être un peu de déco parce que là, on est chez moi. Là, la saison 4, j'avais décidé d'en faire, faire que des épisodes qui sont en extérieur. Et là, pour la première fois, on le fait chez moi. Donc justement, je suis très contente que tu sois là pour inaugurer ce premier épisode à la maison. On va commencer déjà avec une question assez simple qui va peut-être te détendre. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Je m'appelle Amélie, aka Amel, pour les intimes. Et donc j'ai lancé mon studio créatif il y a déjà maintenant un an. Donc, mon métier c'est directrice artistique et brand designer et j'accompagne des entrepreneurs et aussi des jeunes marques dans leur stratégie de marque.
Et tu fais ça depuis combien de temps?
Depuis 2 ans.
Et ça va, ça te plaît depuis le début?
J'adore. On verra peut-être ça plus tard, mais je me suis beaucoup réorientée et vraiment j'adore ce que je fais et voilà, métier passion.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais concrètement dans ton studio?
Donc j'ai vraiment deux services distincts. Donc je vais créer pour mes clients des identités visuelles. Donc là, ça va être tout ce qui est logo, typographie, couleur, charte graphique, etc. C'est vraiment tout ce qui est visuel, mais je fais aussi de la stratégie de marque. Donc là, on fait des ateliers stratégiques. Donc on va chercher leur valeur, leur ton, le message, positionnement. Enfin voilà, c'est le côté beaucoup plus stratégique.
Et là, tu vois, tu as évoqué des ateliers. Est-ce que c'est des trucs que tu fais en physique ou est-ce que c'est des trucs que tu fais par contre en distanciel?
Alors, je peux le faire en physique, mais jusqu'à présent, mes clients en fait sont assez répartis dans la France et pas forcément à côté de chez moi. Donc, pour le moment, je fais ça sur Figma, donc c'est des ateliers interactifs. Voilà.
Et généralement, c'est ton client qui est là ou t'as d'autres personnes aussi qui sont présentes?
En général, j'ai affaire à une seule personne. Après, ça dépend si l'équipe est assez grande et qu'il y a 2 personnes ou 3, ça dépend. Mais souvent, les ateliers sont one-to-one.
Ouais, c'est les ateliers pour la personne qui te l'a demandé.
Ouais.
C'est pas un atelier, on va dire, ouvert à tous que tu proposes.
Non, parce que la plupart du temps, je suis vraiment en contact direct avec les créateurs.
Et du coup, là, on arrive sur la question fatidique. Comment est-ce que l'idée de te lancer t'est venue dans ce type de projet-là? Et surtout, est-ce qu'il y a eu une forme de déclic peut-être derrière?
Alors oui, en partie en fait, j'ai eu la chance d'avoir une petite expérience en agence. Franchement, j'ai adoré ça. Équipe au top. D'ailleurs, s'ils passent par là, je leur fais des gros bisous. C'est sans doute communication. Il y avait quelque chose qui me manquait, je pense, c'était vraiment d'être au contact direct des clients. Et là, c'était pas le cas, mais c'était normal en soi, parce que il y avait un directeur de création qui, lui, allait à la rencontre des clients. Prenez si tu veux le brief et ensuite nous le donner, voilà. Donc on voyait pas de clients quoi, et moi c'est quelque chose qui me manquait. Moi l'humain c'est hyper important pour moi dans mon travail, donc voilà, c'est ce qui me manquait. Donc j'ai arrêté et puis la vie a fait que j'ai vécu un peu un drame dans ma vie qui m'a fait me poser énormément de questions. En fait, ça a été, dans le malheur que j'ai vécu, on va dire, ça a été le coup de boost qui m'a fait me dire, mais en fait, mets-toi à ton compte, fais ce que tu veux faire quoi ? Et voilà, c'est parti de là.
J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu un moment de bascule. Tu sais, entre le moment où on se dit, c'est bon, on est salarié et tout, et finalement, non, ma vie, je vais pas la faire en tant que salarié, je vais la faire en tant que freelance. Et sur les trois histoires que j'ai pu entendre, il y a toujours ce truc-là de, en fait, j'ai eu une occasion qui s'est ouverte à moi, et je l'ai saisie pour aller derrière tester quelque chose et voir si ça allait me plaire. Est-ce que justement, toi, avant d'avoir ce drame, est-ce qu'il y avait déjà eu cette envie d'aller te lancer en freelance?
Alors oui. Moi, depuis que j'étais même en master, je parlais déjà de freelance. Mais c'était assez drôle parce qu'à l'époque, assez drôle mais aussi assez paradoxal parce que je parlais déjà de ça, mais je ne montrais absolument pas mon travail, ni sur les réseaux, j'avais pas de site, rien. Et je me souviens que ma copine m'avait un pe secoué en mode « Ok, je veux bien te suivre et te supporter, mais en fait, commence à montrer ton taf, etc. » Et en fait, je souffrais énormément du syndrome de l'imposteur, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup, d'ailleurs, à passer par là.
Mais justement, on va en parler un peu plus tard par rapport à tout ça, surtout par rapport à une vidéo que tu avais pu faire. Est-ce que tu peux me parler un peu tu peux me dire un peu à quoi ressemble une journée avec toi, une journée type? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les journées que tu as pu avoir en tant que salarié et les journées que tu as actuellement en tant que freelance?
Alors, déjà, un truc tout bête, c'est que je travaille de chez moi. Donc, j'ai la chance d'avoir un bureau et de vraiment séparer mon salon, c'est vraiment pour chill. Le bureau, c'est pour travailler, ma chambre pour dormir. Enfin, vraiment, j'ai la chance d'avoir un assez grand appart pour avoir ça. Ce qui est cool, c'est que au niveau de ma journée, en fait, je vais me lever le matin. J'essaye de, même si c'est, j'avoue, c'est dur par moment, j'essaye de me lever sans écran, de lire un chapitre par jour. C'est vraiment le petit truc que j'essaye de faire, même si j'avoue, il y a des jours que je rate. En fait, moi, je commence la plupart du temps à travailler à partir de 10h. En fait, je fais la plupart du temps 10h, 18h, comme ça, bien que je me lève beaucoup plus tôt, j'ai le temps de faire des choses chez moi, genre ranger, nettoyer.
Ouais, des trucs perso plutôt.
Exactement. Et c'est un rythme qui me convient. Et tu vois, quand j'étais en agence, déjà, je me levais super tôt parce que l'agence où j'étais, c'était à Laval. Et du coup, moi, je suis à Rennes. Du coup, j'avais une heure de train. Donc, fallait que je sois à l'agence à 9h. Mais du coup, mon train était à 7h. Enfin, j'ai tenu un an et demi. Enfin, un peu moins d'un an et demi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Du coup, parce que je me levais très, très, très tôt et je rentrais le soir. Enfin, vraiment, je n'avais plus de vue. C'était horrible. Donc, sinon, après le matin, ce que je fais, c'est que je commence à checker mes mails. Je fais beaucoup de créa le matin. Je suis très matinale. Et les rendez-vous clients, c'est plus l'après-midi. Voilà comment je fonctionne. Après, je sais pas si il y avait d'autres questions à ce niveau-là.
La question que je pense que tout le monde se pose, c'est quel livre tu es en train de lire?
C'est un truc, les fleurs, c'est de Julien. J'ai plus le nom. J'ai la couverture. Julien Sorel, un truc comme ça. Mais sinon, je viens de finir La Psy et j'ai adoré.
Ah, ça c'est cool parce que du coup, moi, c'est un peu dans ma liste aussi.
Ah, tu l'as pas lu?
Non.
Mais ce livre, c'est diabolique, parce que jusqu'à la fin, j'étais hyper fervente, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu mystère, un peu les trucs comme ça, et très souvent, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais souvent j'arrive à résoudre avant la fin d'un film, par exemple, tu vois, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Bon, les livres, c'est différent, c'est plus dur, et je pensais à une solution, et c'était, je me suis fait avoir, mais totalement, mais génial, génial.
Est-ce
génial.
Que t'as lu la saga La Femme de Ménage, ou...
Non. Non, je t'avoue que ça fait pas très longtemps que je me suis remise à lire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu avant, quand je me suis vraiment remise à lire, beaucoup de développement personnel, mais genre vraiment du développement personnel, de par exemple Natacha Kalimest, je suis nulle en prénom. En nom, enfin voilà. Elle est connue, on pourra retrouver son nom.
De toute façon, on mettra, quand t'auras trouvé le truc, on mettra en description.
Je suis vraiment désolée, voilà.
Mais donc, t'as repris la lecture le matin, et justement, c'est ça qui te permet de commencer un peu plus ta journée. Et ça, c'est bien parce que tu commences une journée sans écran, sachant que je pense que généralement, ta journée entière, tu la passes sur les écrans. Donc là, on va parler plus sur une partie un peu plus vie pro, vie perso. Comment est-ce que tu choisis tes clients? Ça, c'est une bonne question que je trouve. J'ai regardé un peu ton site et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses colorées, je trouve, dans ce que tu réalises et tout. Est-ce que tu as déjà refusé aussi des projets? Je sais pas.
Alors, jusqu'à présent, j'ai jamais refusé de projet. Parce que jusqu'à présent, mes clients... J'étais en adéquation avec leurs valeurs, leurs idées. Figure-toi que c'est énormément le bouche à oreille. Aussi, je suis beaucoup sur LinkedIn et Instagram. En fait, les réseaux et bouche à oreille. Vraiment, à ne pas sous-estimer le bouche à oreille, ça marche vraiment. Et sinon, j'ai une personne en fait qui prospecte pour moi.
Parce que du coup, dans ton studio, vous êtes plusieurs.
Non, pas du tout. Elle est externe à mon studio. Ça s'appelle une apporteuse d'affaires. Et en fait, ma phobie de prospecter vraiment. Et donc, elle prospecte à ma place et elle prend 15% sur sur la mission qu'elle m'a apportée.
Qu'est-ce que tu appelles prospecter ?
Eh ben, ça veut dire qu'elle va démarcher des entreprises ou des marques en parlant de mon travail, quoi, en gros. En fait, enfin.
C'est comme un agent.
Exactement, c'est ça. En fait, elle va faire tout ce qui est la partie un peu vente. Enfin, c'est pas vente, c'est. En fait, elle va parler de moi, elle va proposer mes services et elle va déclencher, on va dire, un premier rendez-vous. Après, on voit si ça match ou pas.
Je sais pas si t'avais répondu à cette question-là, mais est-ce que t'as déjà refusé des projets ?
Oui, j'avais répondu et non jusqu'à présent. Je suis en train de chercher non. J'ai déjà hésité, par contre, à prendre un projet qu'on m'avait proposé et j'ai fini par l'accepter. Je l'ai un peu regretté. Parce que pas forcément bon feeling avec la personne. Moi, j'ai déjà, en fait, tout ce qui est un peu red flag pour moi, en tout cas, c'est, tu vois, les personnes qui, tu le sens direct, ils vont pas comprendre ton travail et ils vont pas comprendre tes prix aussi. Donc, à partir de ce moment-là, franchement, j'ai pas envie de me battre.
Et là, tu vois, tu as ouvert une porte, tu as parlé de prix. Est-ce que tu peux un peu me détailler quels sont tes prix pour les prestations que tu proposes ?
Ok, je m'attendais pas à cette question, mais ok. Du coup, moi, pour une identité visuelle, je suis à un prix de entre 1300 et 1400 euros, plus 1400, parce qu'en fait, j'ai dit entre parce que je viens d'augmenter mes prix. Moi, dans ce prix-là, il y a du coup un accompagnement, il y a aussi un espace Notion, un questionnaire stratégique, moodboard, piste créative, déclinaison, session de droit.
Donc, on a les prix. On a ce que tu proposes. Et donc là, un peu pour revenir sur le projet, tu as évoqué que tu as eu des fois des doutes sur le fait d'accepter certains projets ou autres. Est-ce que là, tu as déjà eu des doutes sur même le lancement de ton studio ? Peut-être te lancer en freelance ? Est-ce que tu as eu des moments où tu as hésité, tu t'es dit, est-ce que je me lance dans un bon projet ? Est-ce que j'arrête pas tout ? Je sais pas.
Ah mais clairement, surtout que moi, quand je me suis lancée, en fait, j'avais... on va dire, besoin de me noyer dans quelque chose. Donc, pour ma part, ça a été le travail. Sauf que j'avais aucune strat. Je n'en avais pas. Donc, moi, je suis créative. Donc, moi, tout ce qui est un peu, stratégie et tout, c'est un peu paradoxal vu que je fais aussi de la stratégie avec mes clients. Mais c'est pas ça. Mais genre, vraiment, lancer un business, faire, des analyses de marché, des trucs comme ça, jamais fait quand je me suis lancée. Donc, c'était un peu en mode, j'avais pas de site... j'ai commencé au fur et à mesure à montrer un petit peu des projets, sauf qu'au début je me cachais derrière mes projets. Par la suite après j'ai parlé un peu de moi, je faisais trop un peu des formats éducatifs, donc j'attirais que des confrères, enfin ça n'avait ni queue ni tête. Et en fait au bout de à peu près 6 mois, j'ai suivi un accompagnement. D'ailleurs Maxence, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'ai suivi un accompagnement du coup pour vraiment structurer mon projet, avoir un vrai process client et tout, et je regrette absolument pas. C'est un investissement, mais voilà.
C'est marrant d'entendre que même les freelances ont besoin d'être accompagnés sur la structure.
Ah, mais bien sûr. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Il y en a de plus en plus en ce moment. J'ai vu qu'il y a un peu une vague de coach. C'est la mode d'être coach. Mais c'était important. En fait, ça dépend, je pense, des typologies des personnes aussi. Parce que tu as des personnes, avant de faire quoi que ce soit, ils vont être très, 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 très carrés. Spoiler, c'était pas mon cas. De faire le site avant, de savoir leurs tarifs, leurs offres, hyper bien ficelés, aller jusqu'à commencer en amont à faire des messages de prospection, à savoir quoi dire quand, Moi, c'était pas du tout le cas, donc j'ai à un moment ressenti le besoin et ça, c'était un accompagnement de 3 mois et c'était trop bien, quoi. Ça m'a donné même énormément confiance, puis après, les clients sont venus naturellement, en fait.
Je trouve ça intéressant parce que, tu vois, on en avait un peu discuté en off quand on s'est rencontrés. Moi, je te disais que j'avais un peu envie de me lancer aussi en freelance derrière et qu'en fait, j'avais cette peur-là de ne pas savoir où aller, qu'est-ce que j'allais raconter. J'avais plein d'idées et en fait, c'est ça sur lequel je pêchais, savoir sur quoi je partais pour trouver des clients, pour même prospecter et puis avoir vraiment une expertise sur un point et pas dire « Ah ben, vous avez besoin de ça, ben, je peux le faire ». Tu sais, un peu... j'allais dire un peu mange-merde, mais c'est horrible comme expression. Mais tu vois, genre avoir plein de trucs. Et quand t'as trop de propositions, ben ça matche pas en fait, ça fonctionne pas, ça attire personne.
Bien sûr, non, je comprends. Après, je pense qu'il est important, et ça, il me semble que je te l'avais déjà dit en off, c'est se faire un réseau. Parce qu'en fait, tu vas rencontrer des gens d'univers totalement différents. Et en fait, tu vas te faire un réseau du coup professionnel et des discussions vont emmener d'autres, etc. Et ça se trouve, ça va vachement affiner ton œil sur ce que tu as envie de faire, ton offre. Et ça, c'est hyper important. Moi, je sais que personnellement, quand je me suis lancée, je connaissais personne qui était en freelance. J'en connaissais une qui avait été freelance perso. Je lui ai envoyé un message, elle ne m'a jamais répondu. Donc, j'avais personne. Et c'est pour ça, c'est très important d'oser en fait et de surtout pas être gêné de demander à des personnes, même que tu regardes leur travail de loin, et de leur dire bon voilà, j'ai quelques questions, je souhaite me lancer en freelance et tout, franchement go on, genre.
Je trouve ça intéressant parce que pareil, tu m'ouvres la brèche vers ma question suivante. T'as fait une vidéo sur ton compte Insta où tu parlais un peu de cette peur de se lancer, surtout d'oser, particulièrement quand on est une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat. T'as dit on a peur un peu d'oser, on attend d'être parfaite. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça et est-ce que c'est quelque chose que tu perçois encore aujourd'hui ?
Mais je trouve qu'en fait c'est... Alors c'est con, mais déjà on est dans une société qui quand... Par exemple, voilà, tu prends un exemple. Au point A, il va y avoir un homme et une femme, ok ? Ils vont tous les deux au point B, ok ? On va vachement plus regarder la femme, comment elle va aller au point B. On va plus être tatillon, alors que pour l'homme, non. Et c'est, en fait, c'est la vérité. Donc forcément, alors que, enfin, c'est un truc tout bête, mais la plupart des inventions les plus importantes, ça a été créé par la femme, volé par l'homme. Enfin, c'est un truc de dingue, tu vois ? Et toujours sentiment... d'année après année, de se sentir, enfin, je veux dire décennie après décennie, tu vois, de se dire, en fait, on se sent toujours pas légitime parce que la société nous fait ressentir comme ça, tu vois. Genre, j'en parlais du coup avec une collègue, enfin, on a beaucoup d'expérience, etc. Et des fois, on voit juste. Alors, c'est pas pour dire l'homme est mauvais en général, c'est pas ça, mais c'est vrai que on peut le voir dans notre travail, que c'est juste que par moment, il y a des hommes qui n'ont pas vraiment l'expérience qu'on a, mais ils ont juste le bas-goût que nous, on n'a pas forcément. Et du coup, pour eux, ça marche trop bien, quoi, tu vois.
Mais je trouve ça intéressant parce que, tu vois, là, on parle de cette vidéo-là, du fait qu'on a peur d'oser, de se lancer et tout. Et ben justement, moi, je l'avais la première fois que j'ai lancé le podcast. OK, est-ce que ça va être écouté ? Est-ce que je peux parler dans le vide ? Finalement, ça prend du temps. Et là, on arrive dans une phase où, finalement, c'est écouté, mais c'est écouté aussi par d'autres personnes, genre Radio France et tout, dernièrement. Et je trouve que c'est intéressant parce que, justement, ça fait une boucle avec ce qu'on s'est dit la première fois qu'on s'est vu, où tu me disais, t'avais envie de m'envoyer un message il y a déjà un an de ça, oui. Quand t'avais écouté le deuxième épisode, et t'avais hésité à envoyer le message. Et justement, moi, je t'ai dit, en fait, au moment où toi, tu m'as envoyé le message, donc là, dernièrement, ça rentre dans une boucle où moi, je sens que j'ai des opportunités un peu plus qui s'ouvrent. Et je pense qu'on a été dans une bonne brèche où chacune a osé prendre, tu vois, l'invitation de l'autre pour se permettre d'évoluer un peu plus.
Et de faire des rencontres parce que, encore une fois, c'est super important de savoir s'entourer et juste d'échanger. Enfin, c'est trop important.
Et donc, justement, ça revient un peu avec ça. On parle souvent des avantages d'être freelance. Voilà, t'aménages ton emploi du temps comme tu veux, il n'y a aucun problème. Tu choisis tes clients. Est-ce que... c'est pas finalement un métier non plus trop solitaire. Tu vois, tu parles de rencontres. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi qui prend le dessus ?
Alors oui, c'est un métier qui est assez solitaire quand même, parce que voir tes clients ou tes collaborateurs en visio, en fait, ça fait pas tout. Parce que moi, toutes les personnes avec qui je travaille ne sont pas du tout à Rennes, quoi. Mais pas du tout pour le coup. C'est bien pour ça que j'ai rejoint, là, il y a quelques mois, en tant qu'ambassadrice ProduScale, qui est de base un accompagnement pour les freelances, mais ils ont voulu en fait justement aller à la rencontre de beaucoup plus de freelances. Donc dans plusieurs villes, il y a le club et il y a un ambassadeur. Donc du coup, moi, je m'occupe celui de Rennes. Et le but, c'est de faire des rencontres pour juste se rencontrer entre freelances, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier qui isole, tu vois. Si tu connais pas, si t'es pas vraiment hyper pote, par exemple, avec une autre personne qui fait la même chose que toi, qui est aussi géographiquement proche de toi et que tu peux voir souvent, t'es un peu seul, quoi, tu vois. Après, moi, J'aime énormément cette liberté de juste de chiller, de devoir des comptes à personne, etc. Tu vois, mais c'est vrai que par moment, t'as juste envie de, même tu vois, juste prendre, pas forcément coworker, tu vois, mais juste prendre un café avec quelqu'un et juste voir de l'humain, quoi.
Est-ce que depuis que t'es freelance, t'as pu rencontrer d'autres personnes en dehors, sortir, tout ça?
J'ai rencontré des personnes, dont une en physique, mais sinon, grâce à LinkedIn, hein, j'ai rencontré plein de personnes, genre une dizaine de personnes. C'est trop cool. On a même des groupes WhatsApp, je pense à Elodie et Amel d'ailleurs, je leur fais un coucou si jamais elles passent par là. Et c'est trop bien, c'est juste trop bien de pouvoir parler dès que nous arrive un petit drama, on en discute, tu vois, enfin c'est juste trop cool quoi.
Ouais, je suis totalement d'accord parce que tu vois, je l'ai évoqué aussi avec un pote, et justement quand tu te rends compte que t'as des gens qui sont dans le même milieu que toi, qui comprennent les mêmes choses que toi, il y a vraiment quelque chose de plus fort qui vous lie que des gens qui sont dans des domaines totalement différents. Je dis pas que ça affaiblit, par exemple, l'amitié ou la rencontre que tu peux avoir, mais c'est sûr que tu as parlé des mêmes choses. Genre nous, quand on s'est rencontrés, on a eu ce truc de, bah, en fait, on crée du contenu toutes les deux, et c'est ça qui nous lie de, ah ben putain, j'ai besoin d'un conseil et tout. Ben, par exemple, le truc sur Insta, j'ai dit, ben, je comprends pas pourquoi il se passe ça et tout. Et en fait, on a cherché toutes les deux une solution, on a essayé de comparer un peu nos deux réseaux et de s'entraider, tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux évoquer des situations que tu as au quotidien sans devoir expliquer, oui, non, mais en fait, c'est parce que justement, mon client, il a fait ça, ou il s'est passé ça sur Insta. Ils ont changé plusieurs fois la dimension des carousels, c'est chiant et tout machin. Et en fait, l'autre personne à côté qui n'est pas dans ton secteur va pas forcément comprendre. Pour lui, c'est un, on va dire, une broutille. Alors que toi, c'est quelque chose qui fait l'identité de ton métier et genre, exactement, un changement, c'est très chiant.
Oui, mais oui, carrément. Non, ça fait du bien de parler en fait la même langue avec d'autres personnes, quoi, tout simplement. Hein, on va pas se mentir, mais c'est le cas. Enfin, c'est la vérité, quoi.
Ta boîte, elle a fêté ses 1 an, tu m'avais dit, il y a peu. Je suppose que tu as pas mal d'anecdotes à nous raconter. Est-ce que tu en as une en tête intéressante que tu voudrais partager avec nous?
En fait, quand tu te retrouves sans filet, en fait, parce qu'en fait, quand j'étais en agence, le filet, c'était un peu la personne qui était au-dessus de moi, du coup, qui allait à la rencontre du client. Parce qu'en fait, moi, mes tout premiers clients quand j'étais en agence, à mon compte, c'était des gens que je connaissais. Donc, c'était cool. Parce que, alors ça n'enlève pas... Enfin, tout s'est passé très bien de façon professionnelle, mais ça rassure parce que tu connais la personne, tu vois.
Oui, tu peux t'arranger s'il y a un problème.
Voilà, et quand j'ai eu mon tout premier client, en fait, t'es juste terrorisé. Je me souviens que je bégayais énormément. J'essayais de me justifier sur des trucs. Je me souviens qu'on m'avait dit « tu te justifies beaucoup sur tes prix ». Parce qu'en fait, je savais pas trop comment faire. J'ai fait des super belles rencontres avec des gens... dont j'aime le travail et dont je suis fière en fait des projets que j'ai pu faire. Donc c'est surtout ça en fait que je garderai.
Et là, une des questions un peu de fin de ce podcast-là. Au quotidien, qui est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré pour te lancer ou qui t'inspirent sur la façon dont ils gèrent l'entreprise, qui sont freelance ou peu importe? Je sais que par exemple, je te donne un exemple, moi, me lancer dans le monde du podcast, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça a toujours été 2 personnes et ça restera les 2 mêmes personnes. Ça va être Kian Kojandi, qui est franchement le leader pour moi de ce monde-là. Que ce soit par l'humour, que ce soit par tout ce qu'il a produit, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Et il y a Ben Never, qui en fait, lui aussi, avec ce qu'il a produit, que ce soit en podcast, en vidéo et tout, en fait, sur tout ce qu'ils vont produire, ça va être quelque chose que je vais beaucoup apprécier et sur lesquels je m'inspire beaucoup au quotidien. Est-ce que toi, tu as des personnes comme ça qui t'inspirent?
Alors déjà, j'aime énormément le contenu, mais même la vibe entière de Ben Never, vraiment, je l'adore. Enfin, il est trop beau en plus. Hein. Voilà, non, vraiment, il est... Et puis sa voix est juste incroyable. Et c'est une bonne question, si je crois même... Alors moi, il faut savoir que j'aime beaucoup de choses et j'ai du mal à m'arrêter sur une chose. Il y a une personne, elle est DA aussi comme moi, j'aime énormément son travail, mais elle fait pas vraiment de contenu... vidéo, etc., comme nous on peut faire. Ça s'appelle, elle s'appelle Lona, c'est Polyphème Studio. Vraiment, son travail, je l'aime, j'aime trop. Elle est trop forte, vraiment. Après, en genre format youtubeur, etc., j'aime beaucoup le travail de Justin Buisson. Illusion aussi. Illusion, elle fait des props. En fait, elle est graphiste pour le cinéma. Genre, okay, c'est incroyable. Enfin, tout ce qu'elle fait, elle avait fait le décor, tu sais, pour le film Barbie.
J'avais ok.
Je sais pas si tu vois, mais je te passerai. Oui, mais du coup, voilà, en youtubeur, je dirais Justin Buisson, ce que j'aime beaucoup son approche au début, en fait il fait un peu de tout je trouve maintenant, et j'aime trop, genre là il a, je sais pas si t'as vu la vidéo qui est hyper intéressante, en fait il parle du fait que maintenant les créatifs on devient un peu créateur influenceur en fait, ouais. Enfin voilà, donc il abordait, il interviewe des personnes et tout, c'était vraiment chouette, donc voilà je dirais ça pour les créateurs.
Ça c'est cool, pas mal de noms que je connais, bon pas tous, mais je sais que Justin Buisson, je suis de temps en temps ce qu'il fait, et comme tu dis, c'est super intéressant. Et je crois qu'il avait déjà fait un peu une vidéo, si je ne me trompe pas, sur comment bien débuter ou un truc comme ça. Ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre.
Alors je ne sais pas, parce que en fait, je le suis franchement depuis 2022. Donc tu vois, ça fait déjà 4 ans. Donc j'en ai poncé des vidéos. Je ne sais plus, s'il avait... Peut-être qu'il avait fait une vidéo, mais je peux plus te dire là.
On arrive un peu sur la fin et on arrive sur, évidemment, le conseil. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer et un conseil spécialement aussi pour les femmes qui veulent se lancer ?
Ah, c'est trop dur parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, pour les personnes, de façon générale, de se lancer, n'écoutez pas les autres, en fait. Écoutez-vous, juste, et lancez-vous, genre vraiment, let's go. Je sais que c'est bateau, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est si vous sentez que, au fond de vous, genre ça...
Ça
bouillonne, genre, faut que vous sentez que vous êtes fait pour ça, franchement, lancez-vous, n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire « Ah, mais si ça marche pas, nana », qui voient que par la peur, en fait, au final, parce que c'est votre vie, c'est... Je sais pas comment dire ça de façon simple, mais juste lancez-vous, écoutez que votre cœur, voilà. Et pour les femmes, on en a marre des mecs, hein. Non, mais... il faut encore oser davantage. Il faut se lancer quoi qu'il arrive et toujours garder, je pense, cette bienveillance qui, je trouve, est vachement plus proéminente chez la femme. Il y a vraiment une sororité, en tout cas, je trouve, en tant que femme entrepreneur, genre, on est vachement bienveillante, etc. Et c'est un truc, alors, bête, mais je rencontre de plus en plus de femmes qui veulent bosser qu'avec des femmes. Vraiment. Donc, moi, en vrai... Je suis chaud de continuer dans cet élan-là, en fait. Et, parce que je pense vraiment qu'en tant que femme, on a notre place, bien plus qu'on ne le pense. Et let's go, hein, vraiment. Hein.
Ouais, on a une espèce de place à prouver aussi, peut-être.
C'est ça, ouais. Ah oui, non, mais carrément. Mais dans tous les domaines, dans tous les domaines. Par exemple, dans le milieu du design graphique, il y a énormément... Enfin, du design, je trouve, de façon générale, on va être plus global. Il y a... très peu de femmes qui ressortent, et je trouve ça tellement dommage, à part du coup la Queen Paula Cher qui est juste trop 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 forte, et vraiment mon rêve de la rencontrer un jour. Mais voilà, je trouve qu'on est plus invisibilisé, je trouve. Après, peut-être que je me trompe, attention, je vous vois attraper mon callback là, ceux qui diront le contraire, certainement après, mais en tout cas de mon point de vue, je trouve que ça l'est pas assez, et j'espère que ça le sera davantage.
Ça c'est bien, c'est un très beau message. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu souhaites qu'on te suive sur les réseaux, qu'on trouve ton travail, je ne sais pas.
Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, en vrai, j'avais complètement oublié. J'espère que j'ai exactement le même pseudo. Normalement, oui. Donc, c'est essayer Hey Amel, donc H-E-Y-Amel, point, studio.
Tout sera mis en description, donc il n'y a aucun problème. En tout cas, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à donner pour nos auditeurs et auditrices.
Oui, à toi. Je voulais te remercier du coup pour cette petite invitation. J'avais trop peur et tu vois, je sais pas si t'as capté, mais je me suis détendue. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour l'invitation, c'était trop chouette.
Ah ben, merci d'avoir accepté, hein. Surtout, hein, on inaugure un peu mon appart en faisant ce premier podcast.
Il est trop chouette.
L'intérieur. Merci beaucoup. En tout cas, merci Amel d'avoir répondu à mes questions, d'avoir relancé cette mini-série qui traînait dans les placards. Pour tous ceux qui nous écoutent, hein, évidemment, je remettrai le lien du formulaire sur mes réseaux sociaux pour candidater, hein, être la prochaine personne qui va suivre Amélie. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de cette saison 4. Je vous fais des bisous, à la prochaine.